Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land. Vandaag zullen wij onze prachtige pelgrimstocht die we hebben mogen ondernemen langsheen de spiritualiteit en het leven van moeder Martha van den Putte en de zusters Passionisten, die we mochten volgen tot in Tienen, besluiten. Vorige keer kon u luisteren naar de rondleiding die we met het hele redactieteam hebben mogen ervaren in onze nieuwe studio's in Tienen. Vandaag zullen we luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met een van de zusters waar wij zeer binnenkort mee zullen samenwerken, namelijk zuster Jola. We gaan haar enkele vragen stellen over haar leven, haar weg tot in het klooster en hoe zij zelf haar kloosterleven beleeft. Tot slot zullen wij onze pelgrimstocht dan beëindigen in de kapel en ook zeker aan het graf van moeder Martha van den Putte, waar wij biddend onze intenties zullen neerleggen. De eerste vraag die ik aan zuster Jola heb gesteld, terwijl we ons gezellig hadden geïnstalleerd in een van de ontvangstruimtes van het klooster, was om zichzelf even voor te stellen. We gaan luisteren naar het antwoord van zuster Jola.
Bonjour, goedendag. Je suis très contente que je peux faire une petite connaissance de moi, de ma congrégation dans la radio Maria. Je m'appelle Sœur Jola Zalewska, je suis polonaise. J'habitais en Pologne, dans une petite ville très jolie. Maintenant, je suis 30 ans presque dans la congrégation.
Ik ben erg blij dat ik mezelf en mijn congregatie even mag voorstellen op Radio Maria. Mijn naam is zuster Jola Zalewska. Ik kom uit Polen. Ik woonde in Polen in een heel mooi stadje en ik ben nu bijna 30 jaar lid van de congregatie. Vervolgens vroeg ik aan zuster Jola, u bent op een bepaald moment in de congregatie gekomen, maar wij zijn natuurlijk ook benieuwd naar de periode daarvoor, uw jeugd. Kunt u iets vertellen daarover en hoe u uiteindelijk in de congregatie bent terechtgekomen?
Alors, je pense que ma jeunesse était tout simple, comme toutes les filles, les jeunes de cette époque. Alors, j'ai fréquenté l'école, j'allais à l'école. Et aussi, j'étais dans un groupe de basket. Je jouais le basket. Alors, j'étais vraiment très pris pour cette groupe. Et après, vraiment, jamais je pensais d'y être une religieuse. Ça, c'était hors de question parce que pour moi, cette vie-là était trop fermée parce que j'ai connu les sœurs dans ma paroisse. Mais vraiment, c'est bon Dieu qui m'a fait découverte que la vie que je pensais qui est fermée, pour moi maintenant est devenue très ouverte. Et ça, c'est une découverte que j'ai fait maintenant, mais dans les yeux de filles de mon époque, moi, je voyais les sœurs comme ça, un peu fermées, mais pas fermées, qu'elles ne sortent pas pour parler. Non, c'est la vie un peu cadrée.
Ik denk dat mijn jeugd heel gewoon was, net als die van alle andere meisjes en jongeren in die tijd. Ik ging naar school, zat ook in het basketbalteam en ik was echt heel erg betrokken bij dat team. Daarna had ik echt nooit gedacht dat ik zuster zou worden. Dat was uitgesloten, want voor mij was dat leven te gesloten. omdat ik de zusters in mijn parochie had leren kennen, maar het is echt God die mij heeft laten ontdekken dat het leven dat ik als gesloten beschouwde heel open is geworden. Dat is een ontdekking die ik nu doe. Maar in de ogen van de meisjes uit mijn tijd zag ik de zusters als een beetje gesloten. Niet dat ze niet naar buiten kwamen om te praten, nee, een wat te gecadreerd, gestructureerd leven.
Et pour ça, jamais je pensais d'être religieuse parce que moi, je suis un peu impulsive, je suis un peu libre et aussi j'étais très timide. Alors pour être une religieuse, moi, je pensais qu'il faut être très courageuse et aussi il faut parler, il faut être toujours sur la cime, on peut dire. Alors pour moi, c'est sûr que je n'étais pas fait pour la vie comme ça. Alors, vraiment, maintenant, avec le temps que j'ai passé, j'ai vu que, bon Dieu, il m'a guidée. Parce que dans petite fille, malgré que je suis de grande taille, mais je me sentais toujours petite et pas très douée, alors c'est vraiment, il m'a choisie. Et ça, c'est une expérience que j'ai découverte après, quand je suis rentrée dans la congrégation.
Daarom heb ik er nooit aan gedacht om religieuze te worden, want ik ben een beetje impulsief, een beetje vrij. Ik was ook erg verlegen. En om religieuze te worden, dacht ik vooral dat je heel moedig moest zijn. Je moet ook veel praten, om over alles op de hoogte te zijn. En voor mij was het duidelijk dat ik niet geschikt was voor zo'n leven. Nu, met de tijd die ik heb doorgebracht, zie ik dat God mij echt heeft geleid. Want als meisje voelde ik mij, ondanks dat ik een grote lengte heb, altijd klein en niet erg begaafd. Dus hij heeft mij echt gekozen. En dat is een ervaring die ik pas ontdekte toen ik bij de congregatie kwam.
Alors, comment j'ai découvert vraiment les sœurs? Les sœurs, j'ai découvert vraiment à la fin de mon chemin. Mais au début, j'ai découvert Jésus dans ma vie. Parce que j'étais une fille de mon papa. Pour dire que j'ai une sœur et une frère encore, mais moi, je me sentais, je savais que je suis une fille préférée de mon papa. Alors pour moi, mon papa, il était un personnage, quelqu'un très important. Mais en certain moment, avec un travail qu'il a fait, il est tombé dans un mauvais groupe, on peut dire dans une mauvaise compagnie. Alors, il a commencé beaucoup à boire. Alors, on sait bien quand la personne qui boit beaucoup d'alcool, un parent, alors la famille devient un peu souffrante, on peut dire. Il y a beaucoup de choses que tout le monde souffre. Alors, moi, vraiment, quand je voyais mon papa qu'il devient un peu méchant, malgré qu'il jamais était méchant, qu'il devient pauvre parce que les personnes qu'il boivent, mais on sait qu'ils finissent un peu dans les choses mauvaises. Alors, quand je voyais ça, j'ai souffert beaucoup.
Hoe heb ik de zusters dan echt ontdekt? Wel, ik heb ze pas echt ontdekt aan het einde van mijn zoektocht. In het begin ontdekte ik Jezus in mijn leven, dat ik echt een dochter van mijn vader was. Ik heb nog een zus en een broer, maar ik voelde en wist dat ik mijn vaders favoriete was. En voor mij was mijn vader een zeer belangrijk iemand. Op een bepaald moment, door het werk dat hij deed, raakte hij in een slechte groep terecht, slecht gezelschap, en is hij veel beginnen drinken. En we weten allemaal, wanneer iemand veel alcohol drinkt, ja, dat het gezin daaronder leidt. Je kan zeggen dat er veel dingen zijn waar iedereen onder leidt. En toen ik zag dat mijn vader een beetje gemeen werd, terwijl hij echt nooit gemeen was geweest, en dat hij arm werd, omdat mensen die drinken, zoals we weten, vaak in slechte situaties terechtkomen, toen ik dat zag, dan heb ik erg geleden.
Alors, en certain moment, je commençais prier. avant, je n'ai pas prié vraiment. Alors, j'ai découvert que je peux demander à quelqu'un une aide. Alors, j'ai commencé à prier. Et en le même temps, dans notre paroisse, il est venu un prêtre qui a eu avec nous la catéchèse. Alors, ben, tout le monde allait à la catéchèse et moi aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, dans ce groupe, nous étions 80 personnes. Alors, le prêtre, il a dit qu'il voulait faire un groupe de jeunes dans la paroisse. Alors, il cherche des personnes pour animer ce groupe-là. Et moi, j'étais presque dans le dernier banc, j'étais un peu cachée. Alors, dans le groupe de 80 personnes, il a dit, est-ce que tu peux rester après la catéchèse?
En op een gegeven moment ben ik beginnen bidden. Voorheen bad ik niet echt en toen ontdekte ik echt dat ik iemand om hulp kon vragen. Dus begon ik te bidden en tegelijkertijd kwam er in onze parochie een priester die ons catechese gaf. Ja, iedereen ging naar de catechese, dus ik ook. En wat gebeurde er in die groep? We waren met een 80 mensen en de priester zei dat hij een jeugdgroep wilde oprichten in de parochie. En hij zocht mensen om die groep te begeleiden. En ik zat helemaal achterin, op de laatste bank, een beetje verstopt. En toen zei hij tegen die groep van 80 mensen, wijzend naar mij, kan jij na de catechese even blijven?
Moi, vraiment, j'ai eu peur, parce que j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis? Ben, c'est vrai que moi, j'étais un peu joyeuse. Alors, de temps en temps, j'ai dit quelque chose pour faire rire, mais pas... pour déranger. Alors j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai dit deux fois une chose, tout le monde a ri, et maintenant, il me dit quelque chose, je ne sais pas, j'ai eu peur. Alors il m'a dit, est-ce que tu peux venir à ce jour-là, parce que je pense que je vais te choisir pour être une animatrice. Ben, moi, j'ai dit, mais moi, non, c'est 80 personnes qui étaient là et il a choisi moi. Alors j'ai dit, ok, je viens, mais je fuis tout de suite. Et quand je suis rentrée à la maison, alors j'ai dit, vraiment, je n'ai pas dit parce que ma sœur, la première, elle a dit, tu sais, le prêtre, il cherche les animatrices et moi, je pense d'y aller. Et moi, j'ai dit, mais tu sais qu'il m'a choisi. Alors, nous avons ri parce qu'elle a dit, toi? Je dis, mais oui. Et comment il a fait? Je dis, mais je ne sais pas, tu ne demandes pas, mais je n'ai pas envie d'y aller. Alors, ma soeur, elle a dit, oui, viens, comme ça, nous étions deux. Alors, ce sera plus facile pour sortir à la maison, pour être ensemble. Alors, je dis, ok, je vais.
En ik schrok echt, want ik dacht, oh jee, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gezegd? Het is waar dat ik een beetje ja, altijd de vrolijke was in de groep en af en toe wel iets zei om mensen aan het lachen te maken, maar zeker niet om te storen. Dus ik dacht, oh mijn god, ik heb twee keer iets gezegd, iedereen heeft gelachen en nu zegt hij iets tegen mij. Ja, ik weet het niet. Ik was eigenlijk bang. En toen zei hij aan mij, kan jij op die dag komen, want ik denk dat ik je ga kiezen als animatrice. En ik zei, nee, ik niet. Er waren 80 mensen. Je kunt daaruit kiezen. Maar uiteindelijk heeft hij gekozen en ik zei, oké, ik kom. Maar ik ga meteen terug weg. En toen ik thuis kwam, en dat is echt, ik zei het niet omdat mijn zus, de oudste, zei, weet je, de priester zoekt animatrices en ik denk dat ik ga. En ik zei, maar weet je dat hij mij heeft gekozen? En toen moesten we lachen, omdat ze zei, jij? Ja? En hoe heeft hij dat gedaan? Ja, ik weet het niet. Vraag het niet. Maar ik heb zelfs geen zin om te gaan. En toen zei mijn zus, ja, kom toch maar mee. Dan waren we met z'n twee en dan zou het makkelijker zijn om het huis uit te gaan en om samen te blijven. En dan zei ik, oké, ik ga mee.
En vraiment, pendant cette période... J'ai pensé toujours à mon papa, parce que quand même nous avons beaucoup souffert à cause de ça. Alors j'ai trouvé une phrase dans un livre qu'on peut donner notre vie pour sauver quelqu'un. Alors moi, quand j'ai vu cette phrase-là, je dis, ben, comment on peut donner sa vie à quelqu'un? Alors j'ai commencé vraiment à prier sur cette phrase-là. Alors doucement, j'ai découvert que, sauf la prière, on peut donner l'autre chose.
En echt in die periode dacht ik altijd aan mijn vader, want we hebben daar toch veel onder geleden. En toen las ik een zin in een boek dat we ons leven kunnen geven om iemand te redden. En toen ik die zin las, zei ik, hoe kan je je leven voor iemand geven? Dus begon ik echt te bidden over die zin. En langzamerhand ontdekte ik dat men naast het bidden ook iets anders kan geven.
Et vraiment, un jour, mon papa il est rentré dans ma chambre. Il était un peu ivre, on peut dire. Il m'a dit pour la main, il a dit, Yola, est-ce que tu peux m'aider? Alors moi, j'ai regardé, je dis, comment? Il a dit, je ne sais pas, est-ce que tu peux m'aider? Alors quand il est sorti, moi j'ai pleuré et j'ai dit, comment je peux aider à mon papa? Alors cette phrase, il m'est venue, il a dit, ben, tu peux donner sa vie pour lui. Et comment? Et justement, ça commençait dans ma tête travailler que peut-être je peux fréquenter, je peux voir une congrégation, les sœurs, parce que quand même, je vois les sœurs, c'est pas la vie pour moi, mais je peux offrir, je peux donner quelque chose pour mon papa. Alors, les sœurs passionnées de Saint-Paul de la Croix, je n'ai pas connu à ce moment-là, j'ai connu papa d'une sœur, vraiment. Alors, j'ai parlé beaucoup de lui, avec lui, mais pas de congrégation. J'ai parlé de sa fille. Alors, c'est les premières sœurs passionnistes qu'elles sont parties en Italie. Alors, le papa, il n'y a pas eu le contact avec sa fille. Alors, il a montré des photos, il a parlé de cette sœur-là. Alors, au début, je pensais d'une autre congrégation, mais après, je dis, mais peut-être celui-là, pourquoi pas, ils sont contents, elles sont souriantes, peut-être.
Op een dag kwam mijn vader mijn kamer binnen en hij was een beetje dronken, kan je zeggen. Hij pakte mijn hand vast en hij zei, Yola, kan je mij helpen? En ik keek hem aan en ik zei, hoezo? Hij zei, ik weet het niet, kan je mij helpen? En toen hij weg was, heb ik gehuild en zei ik, hoe kan ik mijn vader helpen? En toen kwam die zin terug in mij op. Je kunt je leven voor hem geven, maar hoe? En toen begon het in mijn hoofd te dagen dat ik misschien naar een congregatie kon gaan, naar de zusters. Want als ik de zusters zie, dat is niet het leven voor mij, maar ik kan wel iets offeren. Ik kan iets geven voor mijn vader. Toen kende ik de zusters van Sint Paulus van het Kruis nog niet. Ik kende de vader van een zuster en ik heb veel met hem gepraat, niet over de congregaties, maar over zijn dochter. Het waren de eerste passionistenzusters die naar Italië vertrokken. De vader had geen contact meer met zijn dochter, dus liet hij foto's zien en vertelde hij over deze zuster. In eerste instantie dacht ik eigenlijk aan een andere congregatie, maar toen zei ik bij mezelf, misschien deze wel, waarom niet? Ze zien er gelukkig uit, ze zijn vrolijk.
Alors, le jour que les sœurs, les trois sœurs sont venues dans ma paroisse, j'ai eu l'occasion de les connaître et tout de suite, j'ai senti quelque chose, j'ai dit, bah oui, peut-être je vais essayer là. Et c'était pas seulement ça, parce que je savais que nous, on va partir en Italie. Alors, j'ai dit comme ça, quand je vais rentrer et je reste en Pologne, peut-être je vais fuir. Mais quand je vais partir en Italie, et comment je vais fuir? Ben, je ne peux pas. Alors, j'ai dit, oui, je vais rentrer, je vais partir, et comme ça, ben, je vais offrir ma vie pour mon papa et pas la porte pour fuir. Mais je suis obligée de rester là-bas.
Op de dag dus dat de zusters, drie zusters, naar mijn parochie kwamen, kreeg ik dus de kans om ze te leren kennen. En ik voelde meteen iets. Ik zei, ja, misschien ga ik het daar proberen. En dat was niet alleen omdat ik wist dat we naar Italië zouden vertrekken. Ik zei, Als ik in Polen blijf, dan ga ik misschien vluchten. Maar als ik naar Italië ga, hoe kan ik dan weglopen? Dat kan niet. Dus ik zei, ja, ik ga weg. Ik ga zo mijn leven opofferen voor mijn vader. En zo vermijd ik de deur die mij zou kunnen toestaan om weg te lopen. Ik moest daar wel blijven.
Maar... J'ai pensé ça à ce moment-là. Après, quand je suis rentrée avec les sœurs, avec les groupes de filles que j'étais, doucement, j'ai commencé à découvrir que cette vie-là est belle. Alors, c'est vrai que je ne me sentais pas, comment dire, à niveau d'être vraiment religieuse, parce que toujours j'ai eu dans la tête, je ne suis pas très douée, je pensais. Je suis timide, parce que toutes les sœurs, elles sortent, elles parlent, elles sont avec les gens, et moi, non, je suis trop timide. Je n'arrivais pas quelquefois à dire « Je vous salue Marie » en polonais, parce que j'ai tremblé, je dis « Comment je vais faire ?» Mais je pense que bon Dieu, il a eu un projet pour moi, parce que j'ai commencé à croire en moi et aussi j'ai rencontré un prêtre et vraiment j'ai demandé, j'ai expliqué un peu cette histoire et après j'ai dit mais est-ce que je peux être une bonne religieuse? Parce que toutes les sœurs, elles ont une vocation et moi je suis venue pour mon papa mais je ne me sens pas que je peux être religieuse.
En dat dacht ik toen. En toen ik met de mijn zusters was en de groepen meisjes waar ik bij hoorde, langzaam maar zeker begon te ontdekken dat dat leven mooi is. En het is waar dat ik mij niet echt een religieuze voelde, omdat er altijd in mijn hoofd zat, ik ben niet erg begaafd, dacht ik toen. Ik ben verlegen, want alle zusters ja, die zijn zo... open en praten met de mensen en ik niet. Ik ben te verlegen, te timide. Soms kon ik het wees gegroet niet eens zeggen in het, en dan nog in het Pools, hè, omdat ik zo trilde. Hè. Ik zei, hoe moet ik dat allemaal doen? Maar ik denk dat God een plan voor mij had, want ik begon in mezelf te geloven en ik ontmoette ook een priester. Ik heb hem toen gevraagd, een beetje door mijn verhaal te vertellen en gezegd van, ja, kan ik wel een goede zuster zijn? Alle zusters hebben roeping en ik ben hier gekomen voor mijn vader. Ik heb niet het gevoel dat ik een religieuze kan worden.
Alors il a dit, tu sais, tu peux prier pour ta vocation. Tu vas prier et bon Dieu, tu montreras, est-ce que c'est ta chemin ou non? Tu as du temps encore. Je dis, ok, je vais prier. Alors, j'ai prié. Et vraiment, quand j'ai fait la première profession, je me sentais en place. Mais encore, j'ai douté parce que toujours, j'ai pensé, je suis timide. Comment je vais faire annoncer bonne nouvelle? Moi, quand je n'arrive pas à parler, je suis cachée derrière quelqu'un. Comment je vais faire? Et vraiment, doucement, maintenant je vois que bon Dieu, quand on prie, quand on demande les grâces, il donne vraiment la force. Parce que je me suis trouvée souvent dans le moment que vraiment j'ai eu peur et j'ai dit, je n'arrive pas. Mais j'ai dit, mais je suis Soriola, je ne suis pas Yola, je suis Soriola. Et cette chose-là, je suis Soriola, il m'a donné une force que quelquefois j'étais étonnée moi-même que j'arrivais à faire, ou dire, ou expliquer quelque chose que jamais je pensais.
En toen zei hij me, weet je dat je kan bidden voor je roeping? Begin te bidden en God zal het je laten zien of het je weg is. Je hebt nog tijd. En ik zei, oké, ik zal erover bidden. Dus ik heb gebeden. En effectief, toen ik mijn eerste geloften aflegde, voelde ik mij echt op mijn plaats. Maar ik twijfelde nog steeds, omdat ik altijd dacht, ja, ik ben te timide. Hoe zou ik nu de blijde boodschap kunnen verkondigen als ik niet eens kan praten, als ik me altijd achter iemand anders verschuil? Hoe zou ik dat moeten doen? En echt, beetje bij beetje. En nu zie ik dat God, ja, als je bidt, als je om genade vraagt, je echt kracht geeft. Want ik heb me maar al te vaak in een situatie bevonden waar ik echt bang was, zei dat ik het niet kon. Maar ik zei, ik ben zuster Jola. Ik ben niet gewoon Jola, ik ben zuster Jola. Dat is wat ik ben, zuster Jola. En hij gaf mij kracht. En soms was ik zelfs verbaasd over mijzelf dat ik iets kon doen of zeggen of uitleggen wat ik nooit eerder had gedacht.
Et après, j'ai prié quand même toujours pour être sûre. Est-ce que vraiment c'est ma chemin? Et j'ai reçu une fois la réponse parce que je pense que chacun a sa place dans une église, dans une famille, dans une communauté. Alors, bon Dieu, il m'a donné une réponse que vraiment ça m'a touchée. Jusqu'à aujourd'hui, je sais que j'ai choisi le chemin qui est vraiment pour moi. Je ne suis pas jamais seule parce que Jésus est toujours avec moi. Et quand on a la confiance avec notre faiblesse, avec notre capacité, que nous, on pense qu'il n'y a pas de talent, bon Dieu, il peut nous utiliser vraiment et mettre dans l'endroit où nous sommes utiles.
En daarna heb ik toch nog gebeden om zeker te zijn. Is dit echt mijn weg? Op een keer kreeg ik een antwoord, want ik denk dat iedereen zijn plaats heeft in een kerk, in een familie, in een gemeenschap. En toen gaf God mij een antwoord dat mij tot op de dag van vandaag nog steeds raakt. Ik weet dat ik de weg heb gekozen die echt bij mij past. En ik ben nooit alleen, want Jezus is altijd bij me. En als we vertrouwen hebben, ook met onze zwakheid, met onze capaciteiten, dingen waarvan we denken dat we geen talenten hebben, kan God ons echt gebruiken, ons tot instrument maken en ons op een plaats brengen waar we nuttig kunnen zijn.
Et maintenant, pour dire que je vois que lui, il m'a guidé. Il m'a envoyé dans l'endroit que moi, je n'ai pas pensé que je peux être donné un témoignage d'un amour de Dieu. Et justement, c'est moi, celui-là que j'étais très timide, que j'ai pensé que je ne peux pas donner rien à les autres. J'ai donné parce que je suis allée une fois avec une autre sœur et plusieurs aussi religieuses pour une mission dans une paroisse. Alors nous avons travaillé avec les enfants, avec les adultes, chacun il a eu son travail. Et moi j'étais avec dans un groupe avec les enfants et moi j'aime beaucoup travailler avec les enfants. Alors, nous avons fait notre possible. Alors, à la fin de cette mission, le curé, il a remercié. Mais quand nous sommes partis, l'année prochaine, ma supérieure m'a appelé, il a dit, est-ce que tu peux revenir dans cette paroisse où tu étais l'année dernière?
En nu kan ik zeggen dat ik zie dat hij mij geleid heeft. Hij heeft mij naar die plek gezonden. Ik had nooit gedacht dat ik getuigenis zou kunnen afleggen van Gods liefde. En juist ik die zo verlegen was, die dacht dat ik niets aan anderen kon geven, ik heb gegeven. Op een keer met een andere zuster en een aantal andere religieuzen ben ik meegegaan op een missie in een parochie. We hebben met de kinderen, met de volwassenen gewerkt, ieder had zijn eigen taak en ik zat in een groep met de kinderen. En ik vind het heel leuk om met de kinderen te werken. We hebben echt ons best gedaan. En aan het einde van deze missie bedankte de priester ons, maar toen we daarop vertrokken, belde mijn overste mij op en vroeg mij of ik terug kon komen naar de parochie waar ik dat jaar daarvoor was geweest.
Et moi, j'ai dit, moi, mais oui, parce que le curé, il a demandé les sœurs les mêmes pour les enfants. Pas les autres, mais celui-là pour les enfants. Et quand nous sommes allés, les personnes, l'autre prêtre, ils ont dit que qu'est-ce que vous avez fait? Parce que le curé, jamais appelle les personnes deux fois. Vous êtes les premières qu'il a appelées pour faire les missions deux fois ensuite. Et celui-là, c'était ma réponse, parce que moi, je croyais, j'ai dit, ben, qu'est-ce que je peux donner? Et j'ai prié, Jésus, est-ce que tu peux me donner une signe, vraiment, une petite signe que moi, je peux porter ton amour dans le monde? Et ça, c'était ma réponse, parce que j'ai senti que moi, je suis vraiment dans ses mains, et avec mes faiblesses, je peux faire quelque chose. Et dans ce moment-là, j'ai dit, je suis tout pour toi. Tu peux faire avec moi qu'est-ce que tu veux.
En ik zei daarop, ik? Ja, want de pastoor heeft de zusters gevraagd, dezelfde voor de kinderen, niet de andere, enkel die voor de kinderen. En toen we daarheen gingen, dan zeiden de mensen, ook de andere priester, maar wat hebben jullie gedaan? De pastoor die belt nooit, nooit mensen een tweede keer. Jullie zijn de eerste die hij opnieuw heeft gebeld om de missies te doen, twee keer na elkaar. En dat was mijn antwoord. Want ik dacht, wat kan ik geven? En ik bad tot Jezus, alstublieft, kunt u mij een teken geven, een klein teken, dat ik jouw liefde in de wereld kan uitdragen. En dat was mijn antwoord, want ik voelde echt dat ik in zijn handen was en dat ik met mijn zwakheden iets kon doen. En op dat moment zei ik, ik ben helemaal van u, u mag met mij doen wat u wilt.
Et justement, il me conduit jusqu'à ici où je suis en Belgique, malgré que je suis un esprit aussi un peu sauvage. Moi, toujours, je dis, mais je suis sauvage parce que moi, toujours, je me cache. Quand je vois un groupe de personnes, je fuis. Je suis un peu sauvage, on peut dire. J'aime beaucoup la nature. Quand je vais avec le vélo dans les champs, j'aime beaucoup. Je me sens libre. Je me sens comme une Mustang. Quelquefois, je dis, je suis un Mustang, quand je sors, je peux courir, je suis un peu... Mais c'est ça que Jésus, il a utilisé justement cette don-là qu'il m'a donné, que je suis dans une maison un peu fermée, on peut dire, parce que je m'occupe des sœurs malades, je ne sors pas souvent dans la ville, on peut dire, mais je me sens très libre. Jésus lui m'a donné une sensation de liberté et aussi il m'a donné une joie profonde. Justement, quand je sors pour un peu prendre l'air, on peut dire, mais ça c'est pour moi une prière, un souffle que je peux prendre pour rentrer à la maison et donner cet souffle à les personnes malades que nous avons à la maison.
En nu brengt hij mij hierheen naar België, ondanks dat ik toch ook een beetje een ongetemde geest heb. Ik zeg altijd, ik ben een beetje ongetemd, omdat ik me altijd wat verstop. En als ik een groep mensen zie, dan heb ik zin om weg te rennen. Ik ben een beetje ongetemd, kan je zeggen. Ik hou erg van de natuur. Als ik met de fiets door de velden rijd, dan vind ik dat heerlijk. Ik voel mij vrij als een Mustang. En wat ik soms zeg, dat is dat ik een beetje als een Mustang ben. Als ik naar buiten ga, dan kan ik rennen. Een beetje zoals dat. Maar het is precies dat wat Jezus heeft gebruikt, die gaven die hij mij heeft gegeven, dat ik een beetje in een gesloten huis woon, kan je zeggen, want ik zorg voor de zieke zusters, dus ik ga niet vaak de stad in. Maar ik voel me heel vrij. Jezus heeft mij een enorm gevoel van vrijheid gegeven en ook een diepe vreugde. Als ik even naar buiten ga om eens een luchtje te scheppen, dan is dat voor mij een gebed dat ik kan offeren, kan geven, om dan terug naar huis te gaan en die ademteug te geven aan de zieke personen voor wie we zorg dragen.
Alors, c'est un parcours un peu simple, on peut dire, mais je trouve très profond parce que vraiment, j'ai découvert que Jésus, quand il appelle, quand on répond vraiment oui, on peut faire grand chose malgré toutes les faiblesses que nous avons. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer les personnes formidables qui ont guidé moi aussi personnellement. Et ensemble, nous avons fait grand-chose pour Jésus.
Het is dus een vrij eenvoudig traject, zou je kunnen zeggen, een eenvoudige weg, maar ik vind het heel diepgaand, omdat ik echt heb ontdekt dat Jezus, wanneer Hij roept en we echt antwoorden, wij veel kunnen doen, ondanks al onze zwakheden. Ik heb ook het geluk gehad om geweldige mensen te mogen ontmoeten die mij persoonlijk hebben begeleid en samen hebben we veel gedaan voor Jezus. En het had wel wat voeten in de aarde, zeg maar, om zuster Jola wat te kunnen overtuigen om het interview te doen. U hoort haar verschillende keren verwijzen naar haar eigen timiditeit. In het voorgesprek echter, en door het feit dat we de zusters natuurlijk beter zijn leren kennen, hoorde ik een bijzonder mooi detail van de wijze waarop zij omgaat met de zieken en in het bijzonder een zuster die dementie heeft en die door haar wordt verzorgd. En daar getuigde ze ook als volgt over.
Alors, nous avons une sœur qui a 8 ans. Elle est malade, elle a la démence. À cause de cette maladie, elle a arrêté aussi de marcher, elle est tout le temps au lit. Alors, cette sœur-là s'appelle Marie-Claire et nous avons vécu ensemble en France plusieurs années. Et là-bas, vraiment, elle m'a aidé beaucoup pour la langue, aussi pour plein de choses, parce que je me suis trouvée un peu surprise d'être en France, et c'est elle qui m'a aidée. Alors, quand elle a tombé malade, j'ai dit à bon Dieu, mais maintenant, je peux remercier. Maintenant, c'est moi que je vais m'occuper d'elle. Alors, c'est vrai que son maladie est un peu difficile parce que moi, j'ai découvert cette maladie avec elle. J'ai commencé à lire un petit peu pour bien la soigner. J'ai dit, je vais connaître la maladie, je vais voir comment je peux réagir pour aider parce que je ne suis pas infirmière. Mais je fais les choses un peu d'infirmière. Alors, j'ai voulu vraiment aider à elle pour supporter cette maladie.
We hebben een medezuster die ziek is. Ze heeft dementie. Als gevolg van deze ziekte kan ze ook niet meer lopen. Ze ligt dus de hele tijd in bed. En deze zuster heet Marie-Claire. We hebben samen jarenlang in Frankrijk dienst gedaan. En daar heeft ze me echt veel geholpen met de taal, met allerlei andere dingen. Want ik was eigenlijk een beetje verrast om mij plots in Frankrijk te bevinden. En ze heeft me echt geholpen. En toen zij ziek werd, zei ik, oh, maar nu kan ik haar bedanken. Nu ga ik voor haar zorgen. En het is ook waar dat haar ziekte een beetje moeilijk is. Ik heb deze ziekte als het ware samen met haar moeten ontdekken. Ik ben mij er een beetje in gaan verdiepen om haar goed te kunnen verzorgen. Ik zei bij mezelf, ik ga mij verdiepen in deze ziekte. Ik ga kijken hoe ik kan reageren om te helpen. Want ik ben geen verpleegster, maar doe wel het werk van een verpleegster. Dus ik wilde haar echt helpen om met deze ziekte door het leven te gaan en deze te kunnen dragen.
Alors, normalement, je suis aussi humain. Quelquefois, j'ai des jours que je suis un peu triste ou un peu fâchée ou j'ai passé un mauvais moment et je suis nerveuse. Alors, chaque fois, quand je suis entrée avec cette émotion dans sa chambre, malgré qu'il était calme, elle m'a regardée. Alors, elle a commencé à faire la même chose, avoir les mêmes émotions que moi. Alors, au début, je n'ai pas compris. J'ai dit, oh là là, elle était calme, mais maintenant, elle est un peu nerveuse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et en certains moments, j'ai compris que vraiment, elle... C'est pas elle qu'elle est nerveuse, c'est moi que je suis nerveuse. C'est pas elle qu'elle est triste, c'est moi que je suis triste. Et justement, j'ai découvert que moi, je suis son miroir. Que elle voit dans la journée, quelquefois, unique personne, c'est moi. Alors, quand elle me regarde, elle voit elle-même. Alors, quand j'ai commencé à sourire, quand j'ai commencé à chanter, quand j'ai commencé à parler avec elle, ben, j'ai découvert qu'elle réagit avec le sourire, qu'elle est plus calme, qu'elle est heureuse.
En uiteraard ben ik ook menselijk. Hè. Soms heb ik dagen dat ik een beetje verdrietig of boos ben, of dat ik een slechte tijd heb gehad, wat nerveus ben. Wel, elke keer als ik met die emotie haar kamer binnenkwam, hoewel ze kalm was, keek ze me aan en begon ze hetzelfde te doen. Dezelfde emoties te hebben als ik. In het begin begreep ik dat helemaal niet. En zei ik bij mezelf, ze was eerst rustig en nu is ze een beetje nerveus. Wat kunnen we doen om dat te veranderen? Maar op een gegeven moment begreep ik dat niet zij nerveus was, maar ik. Niet zij verdrietig was, maar ik. En ontdekte ik dat ik een beetje als haar spiegel ben. Dat zij gedurende de dag soms maar één persoon ziet, dat ben ik. Dus als zij naar mij kijkt, ja, dan ziet ze zichzelf. En toen ik begon te glimlachen, toen ik begon te zingen, toen ik met haar vrolijk begon te praten, dan ontdekte ik dat ze reageerde met een glimlach en dat ze rustiger was, dat ze gelukkig was.
Alors, à un certain moment, je pensais, peut-être, je suis la dernière personne qu'elle voit sur cette terre. Alors, je suis un peu obligée et je voudrais faire que elle va passer peut-être ses derniers jours avec une personne agréable, qu'elle va finir sa vie heureuse, souriante, calme. Alors, au début, c'est une petite expérience que j'ai faite, mais après, j'ai vu que ça marche. Alors, avant de rentrer dans sa chambre, toutes les émotions mauvaises que j'ai eues, j'ai laissées devant sa porte. Alors, j'ai cherché vraiment d'entrer chez elle, souriante, calme, brillante, on peut dire. Alors, elle, dans ce moment-là, et vraiment jusqu'à maintenant, elle est toujours heureuse. Sauf qu'elle est un peu malade, ou il y a quelque chose qui fait mal, mais ça, on peut comprendre. Mais toujours, elle me regarde avec les yeux souriantes.
En op een gegeven moment dacht ik dat ik misschien wel de laatste persoon zou zijn die zij op deze aarde ziet. Dus ik voelde mij een beetje verplicht en ik wilde ervoor zorgen dat ze misschien wel haar laatste dagen zou kunnen doorbrengen met iemand die aardig is, zodat ze haar leven gelukkig en met een glimlach en rustig zou kunnen afsluiten. In het begin was het een beetje experimenteren, maar daarna zag ik dat het echt werkte. Dus voordat ik haar kamer binnenkom, liet ik alle negatieve emoties die ik had achter bij haar deur. Ik probeerde echt haar kamer binnen te gaan, altijd met een glimlach, kalm, stralend, zou je kunnen zeggen. En op dat moment, en eigenlijk tot nu toe, is ze altijd vrolijk. Behalve dat ze natuurlijk een beetje ziek is of dat er iets is dat pijn doet, maar dat is begrijpelijk. Maar ze kijkt mij altijd met een glimlach in de ogen aan. En vervolgens maakte zuster Jola nog een heel andere vergelijking, ook een zeer mooi beeld.
Alors, ça, oui, c'est le miroir, mais aussi pour moi, c'est une chapelle. Parce que quand je rentre dans la chapelle, oui, c'est un endroit que nous, quand on prie, c'est normal qu'on pense que notre cœur, ça change, quand on sort un peu plus joyeuse, que nous sommes un peu différentes, meilleures. Mais quelquefois, ben, moi, je rentrais et je suis sortie, j'ai dit, bon Dieu, je suis rentrée nerveuse et je sors aussi. Et chez Marie-Claire, quand je rentre dans cette personne malade, c'est pour moi un Jésus encore, vraiment que je peux toucher. Je rentre, je sors, et je ne trouve plus les choses que j'ai laissées devant la porte. Ils sont disparus. Alors, ça change quelque chose en moi. Je suis devenue plus heureuse, plus joyeuse, et j'ai dit, quand on donne quelque chose avec amour, on reçoit avec amour.
En dat is inderdaad het beeld van de spiegel, maar voor mij is het ook een kapel. Want als ik de kapel binnenkom, ja, Dat is de plek waar we, als we bidden, hè, normaal gesproken toch denken dat iets in ons hart verandert. Dat we er een beetje vrolijker uitkomen. Dat we een beetje anders zijn, beter. Maar van tijd tot tijd ga ik naar de kapel en kwam ik terug buiten en zei ik, ja, mijn God, ik ging nerveus naar binnen en ik kom ook nerveus naar buiten. Maar bij Marie-Claire, als ik terugkom van die zieke persoon, dat is voor mij echt Jezus die ik echt kan aanraken. Ik ga naar binnen, ik kom naar buiten en de dingen die ik voor de deur heb achtergelaten, die zijn er niet meer. Ze zijn verdwenen. Dus het verandert iets in mij. Ik ben gelukkiger en vrolijker geworden. En ik zei bij mezelf, als je iets met liefde geeft, ja, dan ontvang je ook met liefde.
Et c'est vrai qu'avec cette sœur-là, j'ai compris aussi que toutes les richesses qu'on a, après on laisse sur la terre. Mais qu'est-ce qu'on donne? L'amour, la joie. Quand on donne quelque chose que l'autre peut être heureuse, ça reste. Et cette expérience aussi avec les sœurs âgées, parce que j'ai accompagné les sœurs pour passer au ciel, pour laisser la terre, pour aller au paradis. Et j'ai pensé juste ça. Toutes les choses matérielles, elles sont restées. Après, quelque chose on jette, quelque chose on donne, quelque chose. Et quelquefois, ben, on ne pense plus de cette chose matérielle. Mais qu'est-ce qu'on laisse? On laisse le souvenir. Je pense de cette sœur-là. Celui-là, elle était joyeuse. Il m'a donné ça. Il m'a souri comme elle était triste. Quand elle est venue me donner quelque chose quand j'étais mauvaise humeur. C'est ça qui reste. Notre émotion, notre action que nous on donne à les autres.
En het is waar dat ik dankzij deze zuster ook begrepen heb dat alle rijkdommen die we hebben, wij achterlaten op aarde. Maar wat geven we dan? Liefde, vreugde. Als we iets geven waardoor de ander gelukkig kan zijn, dat blijft bestaan. En ook deze ervaring met de bejaarde zusters, wat ik heb hen mogen begeleiden om naar de hemel te gaan, om deze aarde te verlaten, om naar het paradijs te gaan. En dat was precies wat ik dacht. Alle materiële dingen die blijven achter. Sommige zullen we weggooien, we geven andere dingen weg aan iemand anders. Soms denken we zelfs niet meer aan de materiële zaken. Maar wat laten we achter? We laten herinneringen achter. Ik denk aan die zuster. Ze was vrolijk, ze heeft me dit gegeven, ze heeft me dat gegeven. Ze glimlachte naar mij toen ze zo verdrietig was, toen ze me iets kwam geven, terwijl ik in een slechte bui was. Dat is wat blijft, onze emotie, onze daden die we aan anderen geven.
C'est vraiment, j'ai appris être ici avec les personnes âgées, avec les personnes malades, que moi, je suis leur vie, vraiment, parce que comment moi je m'agis, je suis les sœurs qu'elles passent dernier jour avec moi, avec nous, c'est leur fin de la vie. Alors je cherchais toujours que elles vont partir avec une joie. Et c'est vrai qu'une sœur à la fin de sa vie, elle m'a dit une phrase que ça me touchait le cœur et je porte toujours ça avec une émotion parce qu'elle m'a dit. Je vais mourir, je vais partir, mais grâce à toi, ma vieillesse, ma fin de la vie était belle. Vraiment, j'ai passé une fin de ma vie heureuse. Et après, vraiment, quand je suis partie de l'hôpital, quand je suis allée la nuit, elle a décédé. Alors, j'étais vraiment très heureuse, j'ai dit merci bon Dieu, parce que ça, c'était un trésor, un bijou que j'ai reçu de cette sœur-là, que j'ai dit oui, ma vie, elle a le sens.
En dat heb ik echt geleerd door hier te zijn met de ouderen, met de zieke mensen. Ik ben eigenlijk hun leven, hè, want hoe ik het mij voorstel, ik ben degene die de zuster zijn laatste dag zal doorbrengen. Het is het einde van hun leven. Dus ik wilde altijd dat ze met vreugde zouden vertrekken. En Een zuster aan het einde van haar leven zei iets tegen me dat me diep heeft geraakt en ik draag het nog steeds met grote emotie met mij mee. Want ze zei me, ik ga sterven, ik ga weg, maar dankzij jou was mijn oude dag, het einde van mijn leven, mooi. Ik heb echt een gelukkig leven gehad. En toen ik 's nachts uit het ziekenhuis vertrok, is ze overleden. En ik was echt heel gelukkig. Ik zei, dank u, goede God, want dit was een schat, een juweel dat ik van deze zuster heb gekregen. Ik zei, ja, mijn leven heeft zin.
C'est peut-être, je suis seulement dans la maison avec quelqu'un, personne, je ne sors pas pour parler de l'évangile, de grandes choses. Mais je dis, je suis heureuse parce que grâce à moi, on peut dire, à les dons que Jésus m'a donnés, j'ai aidé à 1, 2, 3, 4 sœurs, 4 personnes pour partir vraiment libre, joyeuse et souriante.
Want ik mag dan misschien alleen thuis zijn met deze persoon en ik ga niet naar buiten om over het evangelie te spreken, over grote dingen. Maar ik zei, ik ben gelukkig, want het is dit werk dat vertelt over de gaven die Jezus mij heeft gegeven. Ik heb 1, 2, 3, 4 zusters, 4 personen geholpen om echt vrij, blij en glimlachend te vertrekken. Dank de zuster Jola voor deze tijd die we samen mochten doorbrengen. Maar ze wilde graag nog een klein iets toevoegen aan het einde van ons interview. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat wij ons zeer binnenkort echt broeders en zusters mogen weten in onze nieuwe studio's in Tienen.
Je peux dire encore une petite chose. Parce que nous sommes très heureux que studio de Radio Maria vient chez nous. Et vraiment, j'ai une toute petite histoire, je ne sais pas ce que je peux dire, parce que quand j'étais en France, j'ai un petit jardin. Alors, une fois, curé, il est venu dans ce jardin, il a dit, oh là là, tu es toujours là pour travailler, il faut aller reposer. J'ai dit, non, père, parce que je prépare ici une place pour apparition de Sainte Vierge. Elle a dit, quoi? J'ai dit, mais oui, parce que toujours vous avez dit, ah, il n'y a pas beaucoup de gens à l'église, mais on a envie que vienne un peu plus. Alors j'ai dit, imaginez-vous quand Sainte Vierge fait une apparition ici dans ce jardin, mais le monde qui commence à venir, oh là là, ça vraiment, ça passera votre imagination. Mais Sainte Vierge n'est pas apparue en France. Alors, je suis venue en Belgique.
We zijn erg blij dat de studio van Radio Maria naar ons toekomt. Ik heb nog een klein verhaal. Misschien kan ik het vertellen. Toen ik in Frankrijk was, had ik een kleine tuin. En op een keer kwam de pastoor naar de tuin en die zei, maar je bent altijd aan het werk, je moet toch ook eens rusten? En ik zei, nee, vader, want ik maak hier de plaats klaar voor een verschijning van de heilige maagd Maria. Wat? Zegt hij. Ja, want u heeft altijd gezegd, ja, er komen niet veel mensen naar de kerk. We zouden graag willen dat er wat meer mensen kwamen. Stel u voor dat de heilige maagd Maria hier in deze tuin zou verschijnen. Ja, dan gaan er toch zoveel meer mensen komen, dat het uw verbeelding te boven gaat. Maar de heilige maagd is niet in Frankrijk verschenen. Dus ben ik zodoende naar België gekomen.
Alors, je suis très contente parce que vraiment, quand Radio Maria, il vient chez nous, pour moi, c'est une apparition. Vraiment, c'est un rêve que j'ai eu parce que ça, c'est vraiment une voix qui peut donner beaucoup d'espoir. Elle peut arriver justement chez les personnes malades qui sont seules, qui cherchent un peu d'écouter quelqu'un. Et quelquefois, c'est la voix de Maria à travers toutes les personnes qui travaillent à Radio Maria. Je pense que c'est un très grand et bon travail. Et vraiment, je suis très ravie. Nous sommes très ravis avec les sœurs malgré un petit bruit que nous avons dans la maison, pour adapter la maison pour le Radio Maria. Et justement, j'ai pensé aujourd'hui qu'on prépare notre maison pour accueillir Radio Maria et Maria avec sa voix ici dans notre maison. Alors justement, j'ai pensé aujourd'hui de Joseph et j'ai demandé, Joseph, tu travailles trop fort parce qu'il y a des bruits qu'on n'arrive pas à supporter. Mais c'est ça, quand on travaille avec la passion, on fait des bruits. Alors je dis, ok, on va supporter, on va travailler ensemble et on va accueillir Radio Marie, on va accueillir Marie avec vraiment, avec Jésus dans ses bras. Et nous sommes vraiment très contentes. Bienvenue, vraiment bienvenue.
En ik ben heel blij, want als Radio Maria bij ons komt, ja, dan is dat voor mij echt als een verschijning. Het is echt een droom die ik heb gehad. Dit is echt een stem die veel hoop kan geven, die juist bij zieke mensen kan komen die alleen zijn, die iemand zoeken om naar te luisteren. En soms is het de stem van Maria via alle mensen die bij Radio Maria werken. Ik vind het een heel groot, goed werk. Ik ben echt heel blij. We zijn erg blij, samen met alle zusters. Ondanks het beetje lawaai in ons huis, om het aan te passen voor Radio Maria. Juist vandaag dacht ik eraan dat we ons huis aan het voorbereiden zijn om Radio Maria, Maria, met haar stem, hier in ons huis te verwelkomen. En ik dacht aan de heilige Jozef en ik vroeg, goh, Sint-Jozef, je werkt toch een beetje te hard hoor, want er is heel veel lawaai dat we soms niet kunnen verdragen. Maar ja, zo gaat dat nu eenmaal. Als je met passie werkt, dan maak je geluid, lawaai. Dus ik zeg, oké, we zullen het verdragen. We zullen samenwerken. We zullen Radio Maria verwelkomen. We zullen Maria verwelkomen met Jezus in haar armen. En we zijn echt blij. Wees welkom. Echt welkom. Het prachtige gesprek met zuster Jola in de gebouwen van onze nieuwe studio's in Tienen. Het is voor ons tijd, dierbare luisteraars, om even naar de kapel te gaan, neer te knielen bij het Allerheiligste en vervolgens de trap af te dalen om onze pelgrimstocht te beëindigen aan het graf van die bijzondere vrouw die deze congregatie in België heeft gesticht en die we in deze afgelopen afleveringen beter mochten leren kennen, moeder Martha van den Putten. En zoals we al hebben gezegd, dierbare luisteraars van Radio Maria, dierbare medepelgrims, we klinnen nu neer in de kapel voor het tabernakel van wat de nieuwe kapel zal worden van Radio Maria, zeer binnenkort, om de Heer te danken voor deze mooie pelgrimstocht, ook zeer zeker voor de grote gastvrijheid van de zusters. En dat is ook voor ons de gelegenheid om even vanuit de kapel dan naar beneden te gaan, want daar bevindt zich het graf van moeder Martha van den Putten. Dierbare moeder Martha, wij danken de Heer voor uw leven en voor de gelegenheid om uw leven te mogen leren kennen. De grote schatten die u in uw leven heeft verzameld, vaak in de grootste verborgenheid, met de grootste discretie, met de grootste nederigheid. Het was uw droom om missionair te kunnen zijn. En we zijn dan ook heel dankbaar, moeder Martha, dat Radio Maria bij u te gast mag komen. Nee, ik moet zeggen, dat Radio Maria bij u thuis mag komen. Dank u, moeder Martha, voor uw gebeden, voor uw offers, voor uw lijden, voor uw leven. Amen. En zo zijn we aan het einde gekomen, dierbare luisteraars en medepelgrims, van onze pelgrimstocht in het leven van de congregatie van de Zusters Passionisten, gesticht door moeder Martha van den Putten. Een volgende keer zullen wij een nieuwe pelgrimstocht ondernemen ergens in ons land. En dan hoop ik dat u opnieuw uw wandelschoenen aantrekt of met ons de fiets opspringt om een nieuw deeltje van ons land te ontdekken. Van harte dank voor het meewandelen en uw gebed, uw aangename gezelschap. En graag tot een volgende keer.